À voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
À l'occasion du 30e anniversaire de l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française, un rendez-vous hommage au Petit Palais à Paris était organisé en décembre 2010 par la Maison des écrivains et de la littérature et la Villa Yourcenar. Pour l'occasion, les trois écrivains, Josiane Savigno, Sylvia Baron-Supervielle et Colette Fellouz, lisaient des extraits choisis de l'œuvre au noir que je vous propose d'écouter dans quelques instants, donc successivement Josiane Savigno, Sylvia Baron-Supervielle et Colette Fellouz.
Peu à peu, comme un homme qui absorbe chaque jour une certaine nourriture, finit par en être modifié dans sa substance et même dans sa forme, engraisse ou maigrit, tire de ses mets une force ou contracte en les ingérant des mots qu'il ne connaissait pas, des changements presque imperceptibles se faisaient en lui, fruit d'habitudes nouvelles qu'il s'était acquises. Mais la différence entre hier et aujourd'hui s'annulait dès qu'il y portait le regard. Il exerçait la médecine comme il l'avait toujours fait. Et il n'importait guère que ce fût sur des loqueteux ou sur des princes. Sébastien Théus était un nom de fantaisie, mais ses droits à celui de Zénon n'étaient pas des plus clairs. Non habet nomen proprium. Il était de ces hommes qui ne cessent pas jusqu'au bout de s'étonner d'avoir un nom. Comme on s'étonne en passant devant un miroir d'avoir un visage, et que ce soit précisément ce visage-là. Son existence était clandestine et soumise à certaines contraintes. Elle l'avait toujours été. Il taisait les pensées qui pour lui comptaient le plus, mais il savait de longue date que celui qui s'expose par ses propos n'est qu'un sot. Quand il est si facile de laisser les autres se servir de leur gosier et de leur langue pour former des sons. Ses rares accès de parole n'avaient jamais été que l'équivalent des débauches d'un homme chaste. Il vivait à peu près claquemuré dans son hospice de Saint-Côme, prisonnier d'une ville, et dans cette ville d'un quartier, et dans ce quartier d'une demi-douzaine de chambres donnant d'un côté sur le jardin potager et les dépendances d'un couvent, et de l'autre sur un mur nu. Ses pérégrinations, assez peu fréquentes, à la recherche de spécimens botaniques, passaient et repassaient par les mêmes champs labourés et les mêmes chemins de halage, les mêmes boqueteaux et la lisière des mêmes dunes, et il souriait, non sans amertume, de ces allées et venues d'insectes qui circulent incompréhensiblement sur un empan de terre. Mais ce rétrécissement du lieu, ces répétitions quasi mécaniques des mêmes gestes, se produisaient chaque fois qu'on harnachait les facultés en vue de l'accomplissement d'une seule tâche délimitée et utile. Sa vie sédentaire l'accablait comme une sentence d'incarcération, qu'il eut par prudence prononcée sur soi-même. Mais la sentence restait révocable. Bien des fois déjà, et sous d'autres ciels, il s'était installé ainsi, momentanément, ou croyait-il pour toujours, en homme qui a partout et n'a nulle part droit de cité. Rien ne prouverait qu'il ne reprendrait pas demain l'existence errante qui avait été son lot et son choix. Et pourtant, son destin bougeait. Un glissement s'opérait à l'insu de lui-même. Comme un homme nageant à contre-courant et par une nuit noire, les repères lui manquaient pour calculer exactement la dérive. Naguère encore, en retrouvant son chemin dans le lacis des Venelles de Bruges, il avait cru que cette halte à l'écart des grandes routes de l'ambition et du savoir lui procurerait quelque repos après les agitations de 35 ans. Il comptait éprouver l'inquiète sécurité d'un animal rassuré par l'étroitesse et l'obscurité du gîte où il a choisi de vivre. Il s'était trompé. Cette existence immobile bouillonnait sur place. Le sentiment d'une activité presque terrible grondait comme une rivière souterraine. L'angoisse qui l'étreignait était autre que celle d'un philosophe persécuté pour ses livres. Le temps qu'il avait imaginé devoir peser entre ses mains comme un lingot de plomb fuyait et se subdivisait comme les grains de mercure. Les heures, les jours et les mois avaient cessé de s'accorder aux signes des horloges et même au mouvement des astres. Il lui semblait parfois être resté toute sa vie à Bruges et parfois y être rentré de la veille. Les lieux aussi bougeaient, les distances s'abolissaient comme les jours. Ce boucher, ce crieur de denrées aurait pu être aussi bien à Avignon ou à Vadstena. Ce cheval fouetté, il l'avait vu s'abattre dans les rues d'Andrinople. Cet ivrogne avait commencé à Montpellier son juron ou son jet de vomissure. Cet enfant qui vagissait dans les bras d'une nourrice était né à Bologne il y a quelque 25 ans. Cette messe du dimanche, à laquelle il ne manquait jamais d'assister, il en avait déjà entendu l'introïde dans une église de Cracovie 5 hivers plus tôt. Il pensait peu aux accidents de sa vie passée, déjà dissous comme des songes. Parfois, sans raison apparente, il revoyait cette femme grosse qu'il avait consenti à faire avorter, en dépit du serment hippocratique, pour lui épargner une mort ignominieuse au retour d'un mari jaloux dans un bourg du Languedoc. Ou encore la grimace de sa majesté suédoise avalant une potion, ou son valet à Léhi aidant leur mule à passer le gué d'une rivière entre Ulm et Constance, ou le cousin Henri Maximilien, qui était peut-être mort. Un chemin creux, où des flaques ne séchaient pas, même en plein été, lui rappela un certain Perrotin qu'il avait guetté sous la pluie, au bord d'une route solitaire, au lendemain d'une querelle dont les motifs n'apparaissaient plus. Il recréait deux corps agrippés dans la boue, une lame brillante tombée à terre et Perrotin, dagué par son propre couteau lâchant prise, devenu lui-même boue et terre. Cette vieille histoire n'importait plus et n'eût pas importé davantage si ce cadavre mou et chaud avait été celui d'un clerc de 20 ans. Ce Zénon qui marchait d'un pas précipité sur le pavé gras de Bruges sentait passer à travers lui, comme à travers ses vêtements usés, le vent venu du large, le flot des milliers d'êtres qui s'étaient déjà tenus sur ce point de la sphère où il viendrait jusqu'à cette catastrophe que nous appelons la fin du monde. Ces fantômes traversaient sans le voir le corps de cet homme qui de leur vivant n'était pas encore, ou lorsqu'il serait, n'existerait plus. Les quidam rencontraient l'instant plus tôt dans la rue, perçus d'un coup d'œil, puis rejetés aussitôt dans la masse informe de ce qui est passé, grossissaient incessamment cette bande de larves. Le temps, le lieu, la substance perdaient ces attributs qui sont pour nous tous leurs frontières. La forme n'était plus que l'écorce déchiquetée de la substance. La substance s'égouttait dans un vide qui n'était pas son contraire. Le temps et l'éternité n'étaient qu'une même chose, comme une eau noire qui coule dans une immuable nappe d'eau noire. Zénon s'abîmait dans ses visions comme un chrétien dans une méditation sur Dieu.
Zénon se choisit un creux abrité de la brise et bien en deçà de la ligne de la marée haute qui se devinait, même dans le noir, à l'humidité du sable. La nuit d'été était tiède. La brume occultait les étoiles. La mer faisait son bruit éternel. Le froid le réveilla avant l'aube. Une pâleur envahissait le ciel et les dunes. Il frissonnait. Mais ce froid portait déjà en lui la promesse d'un beau jour d'été. Il fit couler entre ses doigts une poignée de sable. Il avait fallu, pour émietter ainsi des rochers, plus de siècles qu'il n'y avait de journées dans les récits de la Bible. Dès son jeune temps, la méditation des philosophes antiques lui avait appris à regarder de haut ces pauvres 6 000 ans qui sont tout ce que juifs et chrétiens consentent à connaître de la vénérable antiquité du monde et qui est mesurée par eux à la courte durée de la mémoire de l'homme. Il enleva ses souliers, alourdis par le sable, enfonçant avec satisfaction ses pieds dans la couche chaude et fluide, cherchant et trouvant plus bas la fraîcheur marine. Il ôta ses habits, plaça précautionneusement sur eux son bagage et ses pesantes chaussures et s'avança vers la mer. La marée baissait déjà. Avec de l'eau jusqu'à mi-jambe, il traversa des flaques miroitantes et s'exposa au mouvement de la mer. Nu et seul, les circonstances tombaient de lui comme l'avaient fait ses vêtements. Il redevenait cet Adam Cadmon des philosophes hermétiques placé au cœur des choses, en qui s'élucide et se profère ce qui partout ailleurs est infus et imprononcé. Rien dans cette immensité n'avait de nom. Le soleil montait insensiblement, diminuant cette ombre humaine sur le sable. Dans ce monde sans fantômes, la férocité même était pure. Le poisson qui frétillait sous la vague ne serait dans un instant qu'un sanglant bon morceau sous le bec de l'oiseau. Mais l'oiseau ne donnait pas de mauvais prétexte à sa faim. La violence du flot était sans colère. La mort, toujours obscène chez les hommes, était propre dans cette solitude. Un pas de plus sur cette frontière entre le fluide et le liquide, entre le sable et l'eau, et la poussée d'une vague plus forte que les autres lui ferait perdre pied. Cette agonie si brève et sans témoin serait un peu moins la mort. Il regretterait peut-être un jour cette fin-là. Il revint vers ses vêtements, qu'il eut quelque peine à trouver, recouverts comme ils étaient par une légère couche de sable. Le recul de la mer avait en peu de temps changé les distances. Son corps avait oublié la fatigue. Vous verrez la similitude qu'il y a entre ce que je vais lire d'un homme obscur. C'est la même ambiance, voilà ce que je veux dire, le même lieu, le même paysage, la même ambiance dans un homme obscur, un homme qui va mourir, et dans Zénon, un homme qui cherche à mourir devant la mer, et les deux sont devant la mer. Fragment d'un homme obscur. Alors le temps cessa d'exister. Le soleil se levait puis se couchait à une place à peine autre que la veille. Un peu plus tôt chaque soir, un peu plus tard chaque matin. L'aube et le crépuscule étaient les seuls événements qui comptaient. Entre eux, quelque chose coulait, qui n'était pas le temps, mais la vie. La nuit sur la mer prolongeait de tous côtés la nuit sur l'île. Parfois sorti de la maison dans le noir, il enlevait ses vêtements et se laissait pénétrer par cette noirceur et ce vent tiède. Il aurait su dire pourquoi ce contact de sa peau avec l'obscurité l'émouvait comme autrefois l'amour. À d'autres moments, le vide nocturne était terrible. La peur, insidieuse d'abord, puis souvent fouettée jusqu'à la frénésie, s'installait en lui. Mais ce n'était pas, comme il l'avait cru, la peur de la solitude, mais celle de mourir, comme si la mort était devenue plus inéluctable depuis qu'il était seul. L'ombre des touffes d'herbe sur le sable était un cadran solaire. Il le regardait tourner, ou bien, laissant fuir entre ses doigts le sol meuble, il faisait de sa main un sablier qui ne marquait ni les secondes, ni les minutes, ni les heures. À mesure que son délabrement charnel augmentait, comme celui d'une habitation de terre battue, délitée par l'eau, on ne sait quoi de fort et de clair lui semblait luire davantage au sommet de lui-même, comme une bougie dans la plus haute chambre de la maison. Il supposait que cette chandelle s'éteindrait sous la masure effondrée. Il n'en était pas sûr. On verrait bien, ou au contraire, on ne verrait pas. Personne n'avait besoin d'un Nathanaël immortel. Il y avait autour de lui la mer, la brume, les bêtes de l'air, de l'eau et de la lande. Il vivait et mourait comme ces bêtes le font. Cela suffisait. Personne ne se souviendrait de lui, pas plus qu'on se souvenait des bestioles de l'autre été. Il se dirigea vers l'intérieur de l'île. Il connaissait assez bien les faibles pistes qu'il avait lui-même tracées pour se diriger dans ce demi-jour vers son coin favori. Enfin, il parvint dans le creux qu'il cherchait. Des arbusiers y poussaient çà et là, refuge des oiseaux et au printemps des nids. Il fit en approchant lever deux faisans qui s'envolèrent dans un énorme et soudain bruit d'ailes. Il y avait même, à l'entrée de ce vallonnement imperceptible, deux ou trois petits sapins où des pies avaient niché. Nathanaël enfonça les doigts dans ces espèces de sacs vides qui avaient récemment contenu de la vie. Entre-temps, le ciel tout entier était devenu rose, non seulement à l'Orient comme il s'y attendait, mais de toutes parts, les nuages bas reflétant l'aurore. Soudain, il entendit un bêlement. Quelques moutons redevenus sauvages habitaient au cœur de l'île. Ceux-là avaient trouvé comme lui un abri sûr. L'heure du ciel rose était passée. Couché sur le dos, Nathanaël regardait les gros nuages se faire et se défaire là-haut. Puis, brusquement, ça tout reprit. Il se souleva pour obtenir quelque soulagement. Un liquide chaud, bien connu, lui emplit la bouche. Il étouffait un peu, à peine plus qu'il ne faisait d'habitude. Il reposa la tête sur un bourrelet herbu et se cala, comme pour dormir. Voilà les deux extraits qui, à mon avis, ont lieu exactement dans le même endroit et où les deux personnages sont très très près de la mort. Et aussi, ce qui m'émeut beaucoup dans ces passages, c'est que je trouve qu'ils sont très près d'elle. Et comme je l'ai connu à la fin de sa vie, et que le texte de D'un homme obscur date de 1982 et qu'elle est morte en 87, je pense qu'elle a pensé elle-même, lors de ses promenades qu'elle faisait autour de l'île, elle a pensé elle-même soit d'entrer dans la mer et soit d'essayer de tâcher de mourir comme ça, près de l'eau, dans ces dunes, dans ces creux des dunes. Alors, je voudrais simplement, j'espère que ce ne soit pas trop long, lire un texte pour expliquer un petit peu ses choix. Ça s'appelle « Cet homme seul » et d'ailleurs relié à tout. Dans une conférence qu'elle donna à l'Institut français de Tokyo en 1982, Marguerite Yourcenar nous apprit ce que signifiait pour elle le mot « voyage ». Comme ses personnages, elle entreprit elle-même de nombreux voyages au cours de sa vie. À ses yeux, le voyage n'est pas un déplacement pour le plaisir, mais un déplacement comparable à celui des franciscains dans l'Empire mongol, des moines hindous en Chine ou à la traversée d'Ulysse qui cherchait à retrouver une patrie perdue. Voyager veut dire aller vers la connaissance des autres et à travers des croyances et des coutumes inconnues, venir à la connaissance de soi. Autant qu'elle-même, ces héros ne cessent de reprendre la route pour aller à la découverte d'une vérité suprême, d'une présence divine. Ils expriment ainsi leur solitude. Ils sont seuls et en exil comme elle. Les grands voyageurs de son œuvre sont d'abord Adrien et Zénon, et puis Nathanaël, le jeune garçon d'un homme obscur, qui, moins illustre que les premiers, partagent leur sensibilité, leur soif de comprendre et leur solitude. Les trois méditent, contemplent et racontent leur périple à la manière d'un monologue intérieur. Ils prennent le lecteur à témoin. En les suivant, on ressent leur isolement, comme si le voyage était le meilleur moyen de le traduire. Quelques pages de ces livres se regardent comme dans un miroir. C'est le cas d'une promenade de Zénon dans l'œuvre noire et les derniers moments de Nathanaël dans un homme obscur. Zénon est à la fois médecin, alchimiste, astrologue et philosophe. Il est motivé par les persécutions d'ordre religieux et politique dont il est la proie, ce qui l'oblige à fuir continuellement. Mais son but essentiel est de rechercher la science que les siècles accumulèrent dans certains points de l'univers. Le voyage est pour lui une école d'endurance. Le jeune Nathanaël est voyageur malgré lui. Il est possible qu'il ait vécu au XVIe siècle comme Zénon, quoique rien ne l'indique. Enfant chétif, affligé d'une légère boiterie, il est seul depuis sa venue au monde. Lorsqu'il a 16 ans, au cours d'une fuite, il se réfugie dans un bateau qui le mène à la Jamaïque et aux Barbades. Ensuite, il s'engage comme marin à bord d'une frégate anglaise et débarque sur une île à Saint-Domingue, habitée par des Indiens. De retour en Europe, il devient le valet de chambre de Madame de Dailly, une femme raffinée et musicienne, de laquelle il tombe amoureux secrètement. Mais Nathanaël est atteint d'une maladie pulmonaire, et comme il en souffre de plus en plus, on l'envoie près de la mer afin que l'air soulage son mal. Le long d'une côte, parmi des dunes et des herbes, le jeune homme se couche près d'un bosquet qui le protège du vent et meurt en regardant le ciel. Zénon est l'homme d'un siècle où tout est pierre philosophale, hermétisme, réalisation du grand œuvre. Il ne ressemble pas à Nathanaël en apparence, mais leur âme est identique. Zénon a grandi pour l'Église. Il a appris le latin et le grec. C'est un studieux qui se prépare à être un savant. Il a été élevé pour être prêtre et devient un grand médecin. Il s'occupe du dispensaire de l'hospice, où il panse les plaies des malades et accompagne les mourants. Il aurait soigné et peut-être guéri Nathanaël s'ils s'étaient rencontrés. Yourcenar écrit « Un pied dans l'érudition, l'autre dans la magie ». J'appliquerai ces mots à son œuvre et aux explorateurs solitaires dont elle parle. La fin d'un homme obscur, publié en 1982, c'est-à-dire 5 ans avant sa mort, renouvelle la promenade sur la dune de l'œuvre noire qui parut en 1968. Lors d'une nuit tiède, Zénon se promène sur une plage qui sera plus tard celle de Nathanaël. Il se repose sur le sable dans un creux abrité de la brise. Il entend la mer gronder, regarde autour de lui et songe à la mort. Malgré cela, son heure arrive dans une prison de Bruges, la ville où il est né. Il choisit d'y mourir et de se voir mourir. Ces deux passages où la solitude est palpable dans l'air se déroulent dans une île que Marguerite Yourcenar appelle l'île perdue, qui n'est autre que l'île des monts déserts où elle habitait. Il montre combien elle chérissait la nature qui l'entourait et ses rivages avec les lumières du ciel, le grondement des vagues, les animaux de toutes sortes et les oiseaux en particulier. Son œuvre dépasse les genres littéraires et les appellations. C'est un testament lumineux, mystique et sensuel qui appartient au champ sans frontières de la magie, c'est-à-dire de la poésie. Il se peut que, pour Marguerite Yourcenar, les sens conduisent droit à Dieu. Si elle n'affirme jamais sa foi, elle cite Dieu à plusieurs reprises, surtout quand il s'agit d'amour, comme dans « Feu », où elle écrit « Quand je perds tout, il me reste Dieu. Si j'égare Dieu, je te retrouve. » Et ailleurs, je la cite, « Il y a des domaines comme la religion et la poésie qui doivent rester obscurs ou éblouissants, ce qui revient au même. » Tout ce que l'on pourrait dire sur Marguerite Yourcenar est écrit dans ses livres. Ils sont emportés par une main où les feux de la passion brûlent les archives de l'histoire de ses ascendants et de son histoire personnelle à travers celle de l'homme de tous les temps. La première lecture qu'elle fit quand elle avait 6 ans fut un roman historique où les chrétiens partaient évangéliser l'Égypte. Ce roman fut le point de départ des pèlerinages de ses héros et des siens. En tournant au hasard les pages des carnets de notes de mémoire d'Adrien, je trouve « Une grande partie de ma vie allait se passer à essayer de définir, puis à peindre, cet homme seul et d'ailleurs relié à tout. »
Comme toutes les imaginations nourries et façonnées par l'histoire, il m'est arrivé souvent de tenter de m'établir dans d'autres siècles, d'essayer de franchir, plus ou moins, la barrière des temps. L'étude des littératures anciennes, la philologie, l'archéologie sont les passeports de ces voyages. Mais le déplacement dans le temps n'est souvent jamais mieux obtenu que par le déplacement dans l'espace. Tel lieu nouveau pour nous, mais très ancien, nous dépayse assez pour nous engager à la fois dans une double aventure qui descend les escaliers souterrains de Mycène, plonge au puits des siècles, qui gravit les contreforts des Phédriades, atteint pour ainsi dire à une zone depuis longtemps inhabitée du temps. L'ère des voyages se rétrécit à l'époque des convois et des frontières fermées. Profitons des hasards qui nous retiennent momentanément loin du présent de l'Europe et de son histoire, dans des lieux presque dénués de toute référence au passé humain. Allons plus loin dans le dépaysement et le départ. Dépassons même le temps où l'ancêtre du Peau-Rouge errait dans ses forêts presque aussi furtifs, aussi taciturnes qu'une bête fauve, ne laissant derrière lui que quelques outils d'os et de pierre, et sur la plage, quelques tas de coquillages sucés. entrons dans une solitude plus neuve et plus complète encore, monde du bison et du mammouth, avant même que les peintres de nos cavernes eussent tenté, en traçant leurs magiques images, de traquer le réel à l'aide de l'imaginaire. Monde où les seuls signes sont la trace de la griffe sur l'écorce et du sabot sur la neige. Monde du bruit de la tempête et du craquement de l'arbre qui tombe. Monde du cri, de l'ébrouement ou du chant. Monde pur de tout retour sur soi-même, où la conscience est infuse dans l'être. Mais ce monde des espèces révolues est encore trop rapproché de nous. Ce monde animal est par trop voisin de l'humain. Remonte jusqu'à l'époque où la lumière, la couleur, le son se prodiguaient paisiblement dans un univers qui n'avait pas encore inventé l'oreille ni les yeux. Arrête plutôt ta contemplation sur ces grands objets toujours semblables à eux-mêmes. La mer, pareille à ce qu'elle fut avant la première pirogue, avant la première barque, le sable, calcul infini qui date d'avant les nombres, et ce nuage plus ancien que les profils de la terre et ce plissement silencieux de la neige sur la neige qui fut, avant que la forêt, la bête ou l'homme ait été et qui continuera sans changement quand toute vie se sera dissipée ou tuée. Que ce voyage dans le temps aboutisse à l'extrême bord de l'éternel. L'être que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis s'étaient fixés dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement, puisque toute naissance en est un pour le père et la mère et quelques personnes qui leur tiennent de près, se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévorée par un building. Ayant ainsi consigné ces quelques faits qui ne signifient rien par eux-mêmes et qui cependant et pour chacun de nous mènent plus loin que notre propre histoire et même que l'histoire tout court, je m'arrête, prise de vertige devant l'inextricable enchevêtrement d'incidents et de circonstances qui plus ou moins nous déterminent tous. Cet enfant du sexe féminin, déjà pris dans les coordonnées de l'ère chrétienne et de l'Europe du XXe siècle, ce bout de chair rose pleurant dans un berceau bleu, m'oblige à me poser une série de questions d'autant plus redoutables qu'elles paraissent banales et qu'un littérateur qui sait son métier se garde bien de formuler. Que cet enfant soit moi, je n'en puis douter sans douter de tout. Néanmoins, pour triompher en partie du sentiment d'irréalité que me donne cette identification, je suis forcée, tout comme je le serais pour un personnage historique que j'aurais tenté de recréer, de m'accrocher à des bribes de souvenirs reçus de seconde ou de dixième main, à des informations tirées des bouts de lettres ou de feuillets de calepin qu'on a négligé de jeter au panier et que notre avidité de savoir pressure au-delà de ce que peuvent donner ou d'aller compulser dans des mains ou chez des notaires des pièces authentiques dont le jargon administratif légal élimine tout contenu humain. Bon, après, elle continue. Et à un moment, elle dit... Cette fillette vieille d'une heure est en tout cas déjà prise comme dans un filet dans les réalités de la souffrance animale et de la peine humaine. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ce que je disais sur la vie, la mort. Elle parle du lait, le lait nourricier normalement, mais tout de suite elle associe à la vache qui est morte. Oui, il y a toujours ça, c'est très beau la phrase, va. Regardez, le lait apaise les cris de la petite fille. Elle a vite appris à tirer presque sauvagement sur la mamelle de caoutchouc. La sensation du bon liquide soulage en elle et sans doute son premier plaisir. Le riche aliment est d'une bête nourricière, symbole animal de la terre féconde, que donne aux hommes non seulement son lait, mais plus tard, quand ses pis se seront définitivement épuisés, sa maigre chair et finalement son cuir, ses tendrons et ses os, dont on fera de la colle et du noir animal. Elle mourra d'une mort presque toujours atroce, arrachée aux prés habituels, après le long voyage dans le wagon à bestiaux qui la cahotera vers l'abattoir, souvent meurtrie, privée d'eau, effrayée en tout cas par ses secousses et ses bruits nouveaux pour elle. Ou bien, elle sera poussée en plein soleil le long d'une route par des hommes qui la piquent de leurs longs aiguillons, la malmènent si elle est rétive. Elle arrivera pantelante au lieu de l'exécution, la corde au cou, parfois l'œil crevé, remise entre les mains des tueurs que brutalise leur misérable métier. Voilà, et tout. Et c'est quand même étonnant. On parle de la tétée et on arrive à la mort de la vache. Et voilà, enfin bon, tout ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et la fin, c'est sa mère. Donc, Fernande mourut dans la soirée du 18 d'une fièvre puerpérale accompagnée de péritonite. Le seul jour du mois que Monsieur de C n'a pas indiqué sur la liste est un 13, bien que le pouls et la température soient donnés pour cette date. Peut-être est-ce par superstition qu'il avait omis d'écrire ce chiffre.
Vous avez donc écouté les trois écrivains, Josiane Savigno, Sylvia Baron-Supervielle et Colette Fellouze, trois écrivains passionnés par l'œuvre de Marguerite Yourcenar, et elle lisait des extraits choisis de l'œuvre au noir à l'occasion du 30e anniversaire de l'entrée de la Grande Dame à l'Académie française.